Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient, comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, heure de Paris, 9h, temps universel, avec aujourd'hui une émission exclusivement consacrée à la crise centrafricaine. Un an après le coup d'État, on le voit bien, le pays est toujours le théâtre de violence. D'ailleurs, la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers jours à Bangui, dans la capitale. Le tout sous le regard impuissant des autorités, mais aussi des 8000 soldats africains et français. On va en parler évidemment ensemble grâce à vos témoignages, vos commentaires. En tout cas, l'Union européenne a décidé de déployer 800 hommes dans la capitale à Bangui. L'urgence est également humanitaire, elle est aussi sanitaire. 1 million de déplacés et de réfugiés qui ont fui les violences. Alors comment rétablir la sécurité? Quelle paix? Quelle réconciliation en Centrafrique? 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. N'oubliez pas évidemment les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Mais d'abord, pour décrypter le dossier centrafricain, nous allons répondre à vos questions, et elles sont nombreuses. Avec nous, Olivier Roger, en direct de Bangui. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial des RFI dans la capitale centrafricaine. À vos côtés, Richard Ifono pour les moyens techniques. En studio, Pierre Pinto du Service Afrique. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
Et David Thompson également du Service Afrique. Bonjour David.
Bonjour.
Nous passons donc au standard. Lamine nous appelle de Banjul. Soyez le bienvenu Lamine.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Bon, j'ai appris, Juan, sur RFI, que plusieurs milliers de musulmans sont bloqués et encerclés par les milices chrétiennes anti-Balaka dans différents quartiers de Bangui. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui est fait concrètement par les troupes sangaristes et de la MISCA pour protéger ces musulmans bloqués à Bangui? Quelle est la situation humanitaire et sanitaire dans ces quartiers et dans le reste du pays?
Ouais. Alors on va s'intéresser surtout à ces quartiers habités majoritairement par des musulmans. Olivier Roger, vous êtes sur place. C'est vrai que l'ONU a annoncé sa volonté d'évacuer 19 000 musulmans qui sont menacés par les milices anti-Balaka. C'est une décision qui sonne pour certains centrafricains comme finalement un aveu d'échec de la communauté internationale qui a été incapable de protéger les populations. Que fait concrètement la MISCA et Sangaris pour protéger ces quartiers?
Les forces internationales, Juan, patrouillent à ce qu'on appelle le PK5. Ici, c'est le quartier, la dernière enclave musulmane dans le 3e arrondissement de Bangui. Il y a 2 enclaves musulmanes dans la capitale. Il y en a une au PK12, une autre au PK5. Et dans le pays, il y en a une vingtaine. En fait, ce PK5 est un quartier commerçant qui possède un grand marché. Il y a 6 mosquées. Autrefois, vivaient là-bas plusieurs dizaines de milliers de musulmans. Ils ne sont plus aujourd'hui que quelques milliers. Il est difficile de savoir précisément le nombre. Et sur l'avenue Koutoukou, qui traverse le PK5, on voit encore de lourds camions chargés de marchandises prêts à partir et à quitter Bangui quand les conditions sécuritaires leur permettront. On voit aussi une sorte de no man's land déserté entre le PK5 et les quartiers environnants, des zones qui sont vidées de leur population en raison des multiples affrontements qui s'y sont déroulés. Et ce sont dans ces zones que patrouillent les forces internationales, la MISCA, notamment le contingent burundais. Ce sont des soldats professionnels, armés, qui montent la garde de jour comme de nuit pour prévenir toute attaque et toute contre-attaque. Alors ça ne suffit pas toujours. Le 22 mars, par exemple, les anti-Balaka ont tenté de pénétrer par 3 fois dans le quartier du PK5. Et le 27 mars, jeudi dernier, dans la nuit, des assaillants venus cette fois-ci du PK5 se sont infiltrés dans le quartier Fatima pour attaquer une famille de chrétiens. La MISCA fait ce qu'elle peut, la force Sangaris aussi, mais chacun s'accorde à dire qu'il faudrait faire plus, il faudrait pouvoir désarmer Bangui. Notons aussi que certains groupes anti-Balaka, ou plus précisément à la frontière entre les anti-Balaka et les délinquants, aimeraient bien piller le PK5. Ils apprécient assez peu d'y voir des soldats burundais ou des forces françaises qui protègent ces populations musulmanes. Cela rend la MISCA assez peu populaire aux yeux de certains. Il y a eu aussi quelques bavures, parce que, comme je vous le disais, ce sont des militaires qui sont armés. Parfois, ils font face à des foules en colère, et de temps en temps, il y a des bavures, ce qui n'a pas renforcer la popularité de la MISCA auprès des populations.
Ouais, que pouvez-vous nous dire de la situation humanitaire dans ces quartiers musulmans, Olivier ?
Prenons l'exemple du PK12. Alors le PK12, c'est la sortie nord de Bangui. C'est une espèce de petit village au bout de la ville. Là-bas, ce sont 2500 déplacés venus du nord du pays, des Peuls pour la plupart, qui survivent dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Ils sont encerclés par les anti-balakas qui les empêchent d'avoir accès au marché et donc à la nourriture. Par exemple, certaines femmes musulmanes demandent à des chrétiennes d'aller faire les courses au marché pour elles, mais dès qu'elles s'y risquent, eh bien, elles prennent le risque de se faire dépouiller. J'ai vu ainsi une dame qui s'était fait voler toute sa fortune, c'est-à-dire 15 euros, en essayant d'aller acheter de la nourriture au marché. Autant vous dire que là-bas, au PK12, la malnutrition gagne du terrain. Il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup d'enfants qui attendent l'aide internationale, qui attendent les organisations humanitaires qui, chaque semaine, apportent des soins et des vivres. Ce quartier du PK12 est protégé par la MISCA congolaise et par la force Sangaris, mais ces éléments ne parviennent pas à empêcher cette sorte de blocus des populations dans ce quartier du PK12.
Ouais, vous habitez le PK12, vous écoutez RFI en ce moment, appelez-nous, on vous donnera pourquoi pas la parole évidemment tout à l'heure dans le courant du débat. 33 9 693 693 70. Restez avec nous évidemment Olivier Roger, Pierre Pinto est également à mes côtés, je vous le rappelle, David Thompson. Au standard, nous accueillons Eric.
Oui.
Bonjour Eric, vous êtes à Brazzaville, nous vous écoutons.
Bonjour Juan. Je voulais intervenir sur la situation qui prévaut en ce moment en RCA.
Oui.
Alors, un an après le départ du président Bozizé au pouvoir, la situation sécuritaire est toujours inquiétante et confuse. Alors, vu la situation humanitaire alarmante, le secrétaire général Ban Ki-moon avait demandé le déploiement de 12 000 casques bleus en RCA, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Oui. Ma question est de savoir... Qu'est-ce qui bloque le déploiement de ces casques bleus en RCA ? Et pourquoi ça prend du temps ?
C'est vrai que ça prend du temps. Pierre Pinto, 10 000 soldats, 1 800 policiers, c'est le souhait formulé par Ban Ki-moon. Et ça fait des semaines et des semaines qu'il interpelle le reste de la communauté internationale. Pourquoi ça traîne ?
Des mois même. C'est un long parcours semé d'embûches. Ban Ki-moon avait, il y a plus de 6 mois, dans un rapport, avait dit déjà qu'il comptait à terme sur le déploiement d'une opération de maintien de la paix, c'est-à-dire donc de casque bleu. Mais la priorité à l'époque, c'était surtout d'envoyer une force capable, sinon de ramener la paix, au moins de désarmer les milices, ça a donc été Sangaris. On a aussi augmenté les effectifs de la force africaine, la FOMA, qui est devenue la MISCA. À chaque fois, on est en fait monté d'un cran sans employer directement les grands moyens, c'est-à-dire déclencher cette fameuse opération de maintien de la paix. Et aujourd'hui, sur le terrain, force est de constater en effet que les résultats ne sont pas là. Et pourtant, depuis le début, la France est en pointe dans le dossier centrafricain à l'ONU. Elle appelle de ses voeux le déploiement des casques bleus en clamant haut et fort qu'elle ne peut pas, même avec le concours des 6000 hommes de la MISCA, ramener la paix dans ce pays. Elle fait donc feu de tout bois sur le plan diplomatique pour militer en faveur de cette opération de maintien de la paix. Ces 6 ou 8 derniers mois, chaque fois qu'un officiel français a parlé de la Centrafrique, il a évoqué la nécessité d'une opération onusienne de maintien de la paix. Depuis que la présidente Catherine Samba-Panza et les nouvelles autorités de transition sont en place, chaque responsable centrafricain qui part à l'étranger milite aussi pour une opération onusienne. On a vu ces derniers mois, ces dernières semaines aussi, les dignitaires religieux, par exemple à New York ou dans les capitales européennes, pour plaider pour le déploiement de casques bleus. Récemment encore, le ministre centrafricain des Affaires étrangères a fait de même. Il y a un mois, Ban Ki-moon en a remis une couche, donc, dans un rapport que vous évoquiez, où il préconisait l'envoi de 12 000 casques bleus, 10 000 plus 1 800 policiers. Petit à petit, donc, les réticences ont été levées, réticences de plusieurs pays d'Afrique centrale, dont le Tchad, et surtout, les États-Unis ont fini par en admettre l'idée. Et ça, c'était crucial, parce qu'évidemment, les États-Unis ont le droit de veto au Conseil de sécurité, et que c'est Washington qui finance les opérations de maintien de la paix à hauteur de 28%. Leur aval était donc primordial. Maintenant,
donc les choses s'accélèrent. Là.
Voilà. On parle d'une résolution que la France déposerait dans les jours qui viennent et que la France espère faire adopter avant la fin du mois. Tout cela, c'est ensuite un jeu diplomatique. La Russie, par exemple, est membre permanente du Conseil de sécurité et a aussi un droit de veto. Elle pourrait faire barrage compte tenu des sanctions que lui imposent les Américains et les Européens sur la Crimée. Donc il faut s'assurer que la Russie ne s'oppose pas au texte. Ensuite, si la résolution est adoptée, compte tenu des lourdeurs de la grosse machine onusienne, les casques bleus ne pourraient pas débarquer à Bangui avant le mois de septembre, donc il va encore falloir être patient.
Fiacre nous rejoint, il nous appelle de Bangui. Bonjour Fiacre.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI en Centrafrique, je suis Fiacre Gabirol.
Très bien, nous vous écoutons.
Eh bien, selon les propos du ministre centrafricain des Affaires étrangères, il disait, je cite, « Acmi et Boko Haram sont de plus en plus proches de la RCA ». Alors, ma question est celle-ci. Doit-on craindre l'infiltration de ces groupes terroristes en Centrafrique à l'image du nord du Mali après la guerre de la Libye?
Ah, bonne question, effectivement. David Thompson, bonjour.
Bonjour, Ron.
Alors, vous connaissez bien le dossier. D'ailleurs, on vous doit un ouvrage sorti en France il y a quelques semaines. Les Français djihadistes, ce sont des djihadistes français qui sont partis en Syrie. C'est publié aux éditions Les Arènes, mais c'est un sujet que vous maîtrisez bien. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, Boko Haram, Acmi sont en passe de prendre le contrôle d'une partie du pays, de la Centrafrique?
Les risques d'infiltration djihadiste étaient justement l'une des raisons qui a poussé la France à intervenir début décembre. Jusqu'à maintenant, aucune infiltration djihadiste n'a été constatée en Centrafrique. Pour autant, récemment, un général au cadre de l'ex-Séléka, dans la presse locale, disait, je cite, que les meurtres sans fin de musulmans centrafricains pourraient finir par faire venir Al-Qaïda et Boko Haram. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Des rumeurs d'appel au djihad en Centrafrique lancé par le groupe nigérian circulé sur Internet, mais en réalité, jamais Boko Haram n'a diffusé le moindre communiqué officiel sur la question. Le groupe n'a pas l'habitude de sortir de ses frontières nigérianes, sauf lorsqu'il s'agit de fuir l'armée nigériane pour faire des petites incursions de repli au Niger ou au Cameroun. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une réelle émotion sur Internet. Les photos d'exactions, de lynchages de musulmans dans les rues de Bangui sont largement partagées et utilisées par la propagande djihadiste pour mobiliser, le 16 février d'ailleurs.
Donc il y a des appels à la mobilisation au djihad.
Absolument, c'est quelque chose qui suscite une grande émotion sur ce qu'on appelle le web djihadiste, oui. Le petit monde sur internet du djihad, et le 16 février. Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé, là pour le coup, un communiqué officiel sur la question pour dénoncer, je cite, un nouvel épisode après le Mali de croisade haineuse de la France contre l'islam. Le communiqué citait même un rapport d'Amnesty International qui évoquait en février le risque de nettoyage ethnique. Il se voulait menaçant sans appeler pour autant directement au djihad en Centrafrique. C'était juste sur le ton de la menace. Là encore, je cite, vos crimes ne resteront pas impunis si la guerre se poursuit. Le même jour, les talibans afghans diffusent un communiqué, ce qui est très rare car eux ne communiquent presque jamais en dehors de leur région. Communiqué de la même tonalité. Et puis pour terminer, début mars, un communiqué, là pour le coup, d'un groupe totalement inconnu est diffusé sur Internet. Il appelle à réaliser des actions de djihad individuel de type Mohamed Merah. Le nom est cité par le communiqué, mais en France et pas en RCA. Mais ce communiqué n'émane pas du tout d'un organe djihadiste, d'un groupe djihadiste connu et officiel.
Merci David Thompson. 10h23 à Paris. D'autres questions? Imran, bonjour.
Bonjour, Andomel.
Vous êtes à Yaoundé au Cameroun.
Je suis à Yaoundé au Cameroun. Je voudrais intervenir sur les armes qu'utilisent les belligérants pour semer tout le désordre là. En fait, je voudrais savoir par quelles frontières ces armes passent et qui les ravitaille en armes, quoi. Mm-hmm. Et également, j'ai suivi sur votre antenne hier un chef anti-Balaka essayer de proposer le cessez-le-feu, je sais pas moi. Et je voudrais savoir ce qu'il veut exactement, quelle est sa proposition.
Ouais, c'est vrai qu'un chef des anti-Balaka a promis de déposer les armes en échange de l'ouverture d'un dialogue. Olivier Roger, pour répondre à cette question, il faut peut-être déjà expliquer aux auditeurs qu'il existe deux ailes anti-Balaka.
Voilà, exactement, il existe deux ailes dans cette nébuleuse, dans ce mouvement anti-Balaka. Une aile est représentée désormais au sein du gouvernement, c'est l'aile qui est dirigée par Joachim Kokaté, qui regroupe beaucoup d'anciens FAKA, c'est-à-dire d'anciens militaires qui avaient pris le maquis sous la Séléka. Ces gens-là sont considérés aujourd'hui à Bangui comme des légalistes, ils ont déposé les armes, ils participent d'ores et déjà aux opérations de recensement des militaires qui sont un petit peu partis dans la nature ces derniers mois, et ces gens-là attendent paisiblement de pouvoir réintégrer l'armée pour ceux qui étaient d'anciens militaires. Il existe une autre aile qui est dirigée par Patrice Gaïssona, qui est en fait le coordinateur des combattants pour la paix en Centrafrique. Ce sont les mouvements anti-Balaka que l'on entend le plus en ce moment à Bangui. Ce sont des gens qui sont capables de déstabiliser la situation sécuritaire dans la capitale et qui, il y a une semaine, s'en prenaient à la fois à la MISCA et à la force sangariste. Ces gens-là ont une véritable capacité de nuisance, mais ils disent qu'ils sont prêts à participer au processus de réconciliation, qu'ils sont prêts à dialoguer avec les autorités et à participer au futur programme de DDR, désarmement, démobilisation
et réinsertion.
Cependant, Patrice Gaïssona, que l'on a pu rencontrer cette semaine, manifestement souhaiterait être pris en considération. Est-ce qu'il a un agenda caché? Est-ce qu'il souhaiterait avoir un rôle dans les futures institutions politiques? Il ne le dit pas encore, mais manifestement, il veut être entendu. Dès l'instant où il a une capacité de nuisance importante dans la capitale, il est bien évident que le gouvernement ne va pas pouvoir rester longtemps sourd à ses appels. Des contacts ont déjà été noués d'après des diplomates, et les semaines qui viennent ou les jours qui viennent nous indiqueront ou nous diront un peu plus clairement si Patrice Nguessona et son aile anti-Balaka seront ou non associés au processus de réconciliation et au processus de pacification de la capitale. Car pour répondre à la première question de notre auditeur, les armes circulent en grande quantité dans le pays et notamment à Bangui. Vous savez qu'à Bangui, on peut trouver pour 250 francs CFA une grenade. Ce sont des petites grenades chinoises qui commettent énormément de dégâts. On trouve des kalachnikovs, on trouve des munitions. La plupart de ces armes proviennent des stocks de la Seleka, parce que les combattants de la Seleka sont venus en Centrafrique avec d'énormes stocks d'armes, à la fois récupérés dans les provinces comme les provinces soudanaises comme le Darfour, ou peut-être même parmi les miliciens tchadiens. Il y a énormément d'armes en circulation et ces armes sont restées pour la plupart à Bangui et dans les environs.
Allez, rapidement, une dernière question. Bonjour Gustave.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Bangui, soyez le bienvenu.
Merci. Moi, j'aimerais savoir, un an après la chute de l'ex-président François Bozizé, quelle est vraiment son influence et celle de son camp sur la scène politique en RCA?
Oui, c'est une bonne question, Pierre Pinto, d'autant que François Bozizé est soupçonné par l'ONU d'entretenir un lien avec les anti-Balaka.
Oui, François Bozizé a été président de la Centrafrique pendant 10 ans, donc forcément, il a encore une influence sur place, il a encore des amis, il a encore un parti politique, le KNK, il a des relais d'anciens ministres, d'anciens généraux, etc. On parle souvent comme relais d'Edouard Patrice Nguessona,
dont parlait Olivier
à l'instant, qui refuse, lui, donc, de participer au gouvernement de transition et qui dirige une branche très puissante des anti-Balaka à Bangui. Officiellement, Nguessona réfute travailler pour ou en lien avec François Bozizé. De son côté, François Bozizé affirme également n'avoir aucun lien avec les anti-Balaka, même s'il ne cache pas son objectif. Son objectif, c'est de revenir au pouvoir.
Et d'être candidat déjà à la prochaine élection. Voilà. Il l'a dit samedi dernier sur l'antenne d'RFI, entretien exclusif d'ailleurs, à pouvoir réécouter sur le site internet RFI.
Des élections de l'année prochaine, oui. Alors, malgré les dénégations des deux hommes, de nombreuses sources font le lien entre eux. Certaines sources françaises prêtent même à l'ancien président un magot, un trésor de guerre important avec lequel il financerait ses activités. Une chose est sûre, Bozizé a beaucoup bougé durant l'année qui vient de s'écouler. Il a quitté la RCA pour le Cameroun, il a passé une bonne partie de son exil en France, on l'a signalé aussi au Kenya, au Soudan du Sud, en Ouganda. Il se serait même rendu très récemment, selon une source diplomatique, en Angola pour recueillir des fonds. En tout cas, quand Bozizé réfute tout lien avec les anti-Balaka, il ne convainc pas la France qui essaie de faire adopter à l'ONU une liste de 11 personnalités centrafricaines qui pourraient faire l'objet de sanctions, liste sur laquelle, en haut de laquelle même figure le nom de François Bozizé.
Et de son fils Jean-Francis également. Merci Pierre Pinto, je remercie évidemment Olivier Roger, l'envoyé spécial des RFI à Bangui, on remercie Richard Ifono pour les moyens techniques sur place, David Thompson qui est passé quelques instants dans ce studio répondre à une question. Merci à tous de votre fidélité. On avait prévu beaucoup d'autres questions mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra demain et la semaine prochaine. À suivre le journal. Et nous, on revient dans 10 minutes pour vous donner la parole, vous, Centrafricains.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.